France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
C'était il y a 8 jours au Brésil. Emmanuel Macron a ravivé la colère des agriculteurs français qui se sont sentis comme trahis à propos du traité du Mercosur. Ce traité de libre-échange entre d'un côté l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay et de l'autre donc le marché européen. C'est le mot positif qui est resté en travers de la gorge des agriculteurs car Emmanuel Macron a dit au Brésil qu'il était plutôt positif sur ce traité tout en précisant aussitôt qu'il restait le président vigilant à la défense des intérêts de la France. Les agriculteurs ont pris ça pour un changement de doctrine, car jusqu'alors, Emmanuel Macron avait défendu une autre position, affirmant que cet accord commercial n'était pas acceptable en l'état. Et depuis, eh bien, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, fait un peu de câlinothérapie. Elle a tenté de rassurer les agriculteurs français en affirmant qu'à ce stade, la France ne peut pas valider le projet d'accord avec les pays du Mercosur. Alors que veulent les agriculteurs en France? Que veulent les consommateurs aussi? Quelles contreparties sont encore possibles dans ce traité? Et au passage, comment va évoluer l'agriculture en France? C'est le thème ce soir du Téléphone Sonne. On attend vos questions, vos témoignages. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le Téléphone Sonne 01 45 24 7000.
Avec un premier témoignage ou une première question de Jackie, vous nous appelez d'Indre-et-Loire. Bonsoir Jackie.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous. Merci France Inter pour votre émission et de prendre ma première question. Donc, qui concerne en fait l'énorme paradoxe au niveau de certains agriculteurs, je parle bien de certains agriculteurs, qui n'hésitent pas à s'équiper de matériel agricole, tracteurs, véhicules 4x4, pick-up, importés du Japon, de Corée du Sud, de Canada, des États-Unis, alors qu'il existe exactement les mêmes équipements en Europe et même en France. Et ces mêmes agriculteurs nous expliquent qu'il ne faut pas consommer des produits qui viennent d'Espagne, du Portugal ou même d'Amérique latine, c'est-à-dire du Mercosur.
Eh bien, merci.
Et vous, ce paradoxe.
Merci pour cette question avec ce soir deux invités pour vous répondre. Marine Colli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultante et spécialiste des politiques agricoles et des politiques de libre-échange dans ce domaine. Votre dernier livre a pour titre « Notre assiette mondialisée » paru aux éditions Revoir. Et nous sommes en ligne avec Romain Blanchard qui est secrétaire général adjoint de la FNSEA, président de la FDSEA des Bouches-du-Rhône, la FDSEA 13. Et où je précise que vous êtes viticulteur à Aix-les-Bains. Bonsoir Romain Blanchard. C'est à vous que je vais peut-être réaiguiller cette première intervention. Vous êtes à Aix-en-Provence, exactement.
Oui, plutôt.
Oui, pardon. Jackie nous disait qu'après tout, la libre circulation des biens, ça vaut pour tous les biens. Vous reprochant aux agriculteurs, pas vous peut-être personnellement, d'avoir du matériel agricole importé du Japon, des États-Unis ou autre. D'abord, est-ce que c'est votre cas? Et puis, est-ce qu'on peut, vous pouvez acheter du matériel ailleurs que celui qui serait importé?
Alors, moi, effectivement, j'ai du matériel importé. Je ne crois pas qu'il vienne du Japon ou des États-Unis. Alors, je ne sais pas si je peux citer la marque, mais
Allez-y, on va essayer d'en donner 2-3. Oui.
Moi, en tracteur, c'est que du New Holland, donc c'est fabriqué en Italie, a priori. Je crois qu'ils ont une usine en Angleterre aussi, alors c'est plus l'Union européenne, c'est sûr.
Et pourquoi pas du matériel français?
Alors ça dépend, pour les outils, un peu de matériel français. Moi j'ai la chance d'habiter pas loin d'une société française qui fabrique du matériel viticole. Malheureusement l'industrie française étant ce qu'elle est, et c'est d'ailleurs un peu le problème et ce qu'on redoute pour l'agriculture française, l'appareil productif étant ce qu'il est en France, on peut pas acheter que français, malheureusement, je le déplore, mais je suis assez d'accord avec la remarque de monsieur.
Merci beaucoup de ce premier témoignage. Marine Colli, ce traité du Mercosur, on va peut-être le redéfinir, dire ce qu'il y a dedans avant de le commenter. Il a été signé il y a un an, il est désormais, je crois, en processus dit de ratification. Il pourrait être voté même par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Cet accord commercial tant décrié n'a-t-il jamais été aussi proche d'aboutir ?
C'est ce que les agriculteurs craignent en effet. L'accord a été conclu, les discussions sont terminées entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. On attend donc une signature politique de cet accord, probablement au mois de décembre. La date du 19 décembre a même été évoquée. Cet accord de libre-échange est négocié depuis longtemps. Hein. Le mandat de négociation
depuis 1999.
Exactement. Il fait particulièrement peur aux agriculteurs parce qu'il s'agit là de négocier absolument tous les secteurs en même temps. Donc on essaye de vendre des choses au Mercosur et donc on doit assumer en retour de faire des concessions. Et c'est vrai qu'on a là en face le Brésil, qui est incontestablement le numéro 1 de l'agro-industrie exportatrice, et donc qui pourrait très vite remplir les quotas qui ont été concédés de viande de volaille, de viande de bœuf, de maïs, de céréales. Et ces produits-là vont arriver encore plus qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils arrivent déjà, et la question du monsieur était très juste.
Au consommateur de choisir, il disait aussi...
Alors, oui et non, le vrai souci de ces importations, c'est qu'on parle là de produits qui ne respectent pas les normes de production qui sont inscrites dans notre réglementation européenne, et donc on a là des produits qui arrivent à un niveau de compétitivité qu'en aucun cas les agriculteurs français et européens seront en capacité d'atteindre.
Romain Blanchard, pour la FNSEA, ce traité ouvrirait donc les portes de l'Europe à des céréales, des viandes ou du sucre en provenance d'Amérique du Sud, issus de l'agro-industrie. Avec des substances interdites depuis longtemps pourtant sur le marché français et européen. De quels produits parle-t-on précisément ?
Vous parlez des produits interdits
ouais. Oui.
Ce qui va parler le plus aux gens, je crois, c'est les hormones de croissance dans la viande bovine. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont les effets néfastes sont plus à démontrer sur la santé. C'est quelque chose qu'on a interdit chez nous il y a à peu près 30 ans. D'ailleurs, vous n'avez pas entendu un seul agriculteur français, je crois, réclamer le retour à ce mode de production. Et malgré ça, on va importer ça massivement. Et ce sur quoi il faut bien insister, je crois, c'est que c'est pas de la viande que vous allez retrouver sur les étals des bouchers, ni dans la plupart des restaurants. C'est de la restauration hors foyer, c'est-à-dire c'est dans les restaurants d'entreprise, dans les cantines scolaires que vous allez retrouver ça. Et ça pose une vraie question de santé publique. Je reviens sur ce qu'a dit votre invité. Hein. Nous, ce qu'on demande, c'est la réciprocité des normes. C'est ce qui est interdit et néfaste quand c'est produit par un agriculteur français, on peut l'entendre, mais c'est tout aussi néfaste pour la santé quand c'est produit par un agriculteur brésilien.
Marine Colli, la réciprocité des normes, elle est encore envisageable aujourd'hui au stade où on en est ?
Elle l'est, évidemment. D'ailleurs, je vais peut-être apporter une toute petite correction par rapport à ce qui vient d'être dit. Justement, le bœuf aux hormones, on ne l'importe plus parce que dans les années 90, une mesure qu'on appelle mesure miroir aujourd'hui dans le débat public a été adoptée. L'Union européenne a assumé non seulement d'interdire cette pratique dans ses élevages, mais aussi de poser une condition d'accès à son marché. Donc, les producteurs de viande bovine qui veulent accéder au marché européen doivent apporter la garantie que leurs animaux n'ont pas été traités avec des hormones de croissance. Donc ça, on l'a déjà fait.
Quels sont les risques avec la viande brésilienne, argentine, péraguayenne et qui pourrait arriver en Europe ?
Un risque, par exemple, c'est le fait que ces élevages-là ont tout à fait le droit encore d'utiliser non pas des hormones, mais des antibiotiques qui ne servent pas à soigner les animaux, mais à accélérer leur rendement. C'est très vrai dans les élevages de volailles et de bovins. Et là, il est démontré pourtant depuis les années 70 par toute la communauté scientifique que cette pratique d'élevage contribue à aggraver l'antibiorésistance qui tue déjà plus d'un million de personnes à l'échelle de la planète. Donc on a là un vrai lien entre une pratique d'élevage qu'on vient stimuler par nos choix de politique commerciale et un risque pour la santé publique.
01 45 24 7000. Denis est en ligne d'Essonne, le département de l'Essonne, près de Paris. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Bonsoir, merci bien. Je me pose la question, si on achète essentiellement français, les agriculteurs vont donc être obligés de produire plus et d'utiliser donc des produits pas très très bons pour la santé et pour les sols. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ?
Merci de cette question très claire. Je vais la soumettre à Romain Blanchard, le secrétaire général adjoint de la FNSEA. Est-ce que acheter français, ce serait, s'il n'y a pas ce traité du Mercosur, ce serait produire plus et donc peut-être détruire plus d'arbres et faire des champs encore plus grands ?
Non, je crois pas. Alors des champs plus grands, on a plutôt le problème inverse en ce moment, et c'est particulièrement vrai dans des régions comme l'Occitanie, où on a des problèmes de déprise agricole, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas pleinement la surface qui est la nôtre. Et puis nos pratiques sont quand même reconnues universellement comme parmi les plus vertueuses du monde, si ce n'est les plus vertueuses du monde. Et puis on est dans l'amélioration continue. C'est ça qu'il faut noter. Moi, je fais ce métier-là depuis une grosse vingtaine d'années maintenant. Ce que j'ai connu en démarrant et ce que je fais aujourd'hui, c'est très très différent. Parce que la science évolue, parce que le savoir évolue. Il évolue parce qu'on pratique, parce qu'on produit. et donc on s'améliore de manière continue.
Eh bien, expliquez-nous précisément ce qui a changé dans les pratiques en 20 ans. Alors, je précise que vous êtes viticulteur à Aix-en-Provence, mais vous aviez été aussi, vous étiez céréalier, je crois.
J'ai toujours un petit atelier céréal, mais qui...
Eh bien, qu'est-ce qui a changé dans ces deux domaines ?
C'est anecdotique.
Qu'est-ce qui a changé dans ces deux domaines en 20 ans ?
Par exemple, sur la viticulture, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un secteur qui est plutôt favorable climatiquement, mais on n'utilise plus d'herbicides, ça se fait plus du tout, on travaille le sol, on fait des intercultures à l'intérieur des rangs pour apporter de la matière organique, on met plus le même engrais, on raisonne différemment, on a des pratiques aussi qui font qu'on utilise quasiment plus d'insecticides, sauf dans des cas très particuliers où on est, alors c'est étrange, mais obligé de les utiliser, puisqu'il y a des maladies qui se transmettent d'une vigne à une autre par des insectes piqueurs, en l'occurrence la flavescence dorée, on est obligé de traiter à l'insecticide, mais c'est une pratique que moi j'avais arrêtée, parce qu'on était plus sujet à ça et qu'on arrivait à contrôler ce qu'on appelle les ravageurs, c'est-à-dire les insectes néfastes, d'une autre manière. En fait, on s'améliore tout le temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les produits phytosanitaires, il n'y a aucun agriculteur qui se lève le matin en se demandant lequel il va bien pouvoir utiliser. C'est quelque chose qu'on utilise en dernier recours pour soigner, pour aider notre culture. Si on trouve d'autres méthodes qui sont d'abord meilleures pour l'environnement et puis meilleures pour l'économie de nos entreprises, parce que ça a un coût tout ça, on les utilise bien volontiers ces méthodes.
Merci beaucoup de ce témoignage. Nous sommes en ligne avec Charlotte. Bonsoir Charlotte, je crois que vous êtes éleveuse de vaches laitières sur une ferme bio.
Tout à fait. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, Charlotte. Donc, je suis installée en Ille-et-Vilaine, donc sur une ferme avec surtout beaucoup de pâturage et en bio. Moi, je voulais réagir en disant que le premier problème, c'est que la France, le ministre, même souvent aussi des fois sur France Inter, on écoute beaucoup le syndicat majoritaire qui râle beaucoup et qui est beaucoup mis en avant. Mais par exemple, nous, à la Confédération Paysanne, je pense que les normes, et ça protège les paysans plutôt qu'autre chose.
Et les traités il y a eu une saute de ligne, donc j'ai du mal à entendre votre argument à la Confédération Paysanne. Est-ce que vous pouvez le rappeler ?
Alors, la Confédération Paysanne n'est pas opposée au commerce, parce que le commerce, c'est quelque chose d'important et qui fait aussi vivre tout le monde. Le traité de libre-échange, aujourd'hui, le problème, c'est que il ne fera pas mieux vivre les paysans à l'autre bout du monde et les paysans français et européens, bien sûr. Nous, on veut commercer, mais à condition d'importer des produits qui n'existent pas forcément chez nous, ou en tout cas qui respectent les normes que l'on a ici en Europe et en France. Si c'est pour détruire l'agriculture à l'autre bout du monde, ça n'a aucun intérêt. Donc, en fait, à la Confédération Paysanne, on propose quelque chose de très simple qui s'appelle les prix minimums d'entrée. Ça veut dire qu'on fait rentrer des produits qui respectent les normes environnementales, sociales et fiscales de la France et de l'Europe pour pouvoir commercer à pied égal et aussi pour pouvoir aussi monter en qualité. En fait, le but, c'est que les citoyens, les consommateurs puissent manger de l'alimentation de qualité et surtout que nous, les paysans, on puisse vivre. Parce que, en fait, on est quand même... C'est une vraie réalité, on est de moins en moins de paysans. Et je ne sais pas qui va produire l'alimentation demain, en fait.
Merci. Merci de ce témoignage et du côté de la Confédération Paysanne à laquelle vous appartenez, Charlotte, éleveuse de vaches laitières sur une ferme bio. Ne pas importer de produits n'importer que des produits qui n'existent pas en France ou en Europe, ce serait une des voies à étudier, Marine Colli, pour rendre ce traité plus acceptable ?
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la voie de la réciprocité des normes de production, oui. C'est ce qu'on a su faire.
Qu'on appelle les mesures miroirs ?
Exactement, ce sont les mesures miroirs, c'est une manière de protéger son marché. Peut-être, avant de vous répondre sur ce point, moi j'ai l'impression, Charlotte, la question qu'elle pose, c'est celle du projet politique que porte la France pour son agriculture. Qu'est-ce qu'on veut ? Il faut comprendre qu'il y a un décalage énorme en ce moment entre la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les agriculteurs. Je ne parle pas des crises sanitaires, des urgences temporaires, je parle vraiment d'une urgence structurelle. Charlotte l'a dit, on a perdu 100 000 fermes dans les 10 dernières années, un agriculteur sur deux va partir à la retraite dans les 10 prochaines, on perd énormément de production. Les agriculteurs travaillent dans un contexte d'incertitude totale sur les enjeux sur les enjeux économiques, sur les enjeux climatiques. Donc là, il y a vraiment un besoin de politique pour les agriculteurs. Quel est le cap? Qu'est-ce qu'on veut produire? Comment? Pour quel marché? À mon avis, on répondra à la question du Mercosur si on arrive à se poser la question. On déplore tous effectivement le fait qu'on importe de plus en plus de produits, et notamment de produits qui ne respectent pas nos normes. Il y a deux visions qui s'affrontent aujourd'hui face à cette situation. Il y a deux façons de faire. Soit on essaye de ressembler à ces champions mondiaux de l'agro-industrie qui arrivent sur notre marché. C'est très peu souhaitable de mon point de vue au plan environnemental, et je suis pas sûre que beaucoup d'agriculteurs aient envie de ça. Soit effectivement on assume de protéger notre marché, et ça peut passer effectivement par ces mesures miroirs qui consistent à poser des conditions d'accès à notre marché liées au respect d'un ou plusieurs standards de production qui sont déjà dans notre réglementation.
Et au passage, Romain Blanchard, je me tourne vers vous parce que notre auditrice disait aussi qu'on donne souvent, et ce soir encore, et je le prends aussi pour nous à France Inter, on donne la parole ce soir à la FNSEA qui est le plus gros syndicat agricole en France et qui a donc d'autres ambitions que les petits, paraît-il, que les petits producteurs. Entre un grand céréalier et puis un petit producteur de miel, il n'y a pas les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Vous êtes d'accord avec ça?
Alors que toutes les exploitations soient différentes, oui, je suis évidemment d'accord. Par contre, c'est un peu une image d'Épinal. Il ne faut pas croire que tous les agriculteurs, tous les gros agriculteurs et les gros exploitants sont à la FNSEA et que tous les petits sont à la Confédération Paysanne. Moi, dans mon département, jusqu'à ce qu'il y ait un renouvellement à la Confédération Paysanne, le président de la Confédération Paysanne avait une exploitation plus grosse que la mienne. Donc si j'écoute ce raisonnement, moi on aurait dû échanger nos places, lui et moi. C'est pas tout à fait ça, c'est plutôt, je reviens sur ce que disait Madame Colli, c'est plutôt une histoire de projet politique et de vision pour l'agriculture qui s'oppose. À la FNSEA, enfin je vais pas parler pour la Confédération Paysanne, aujourd'hui on défend que l'agriculture, si ça peut être une passion, c'est avant tout un métier. C'est un métier qui a un rôle en plus important dans notre société, et c'est fait pour gagner de l'argent. Alors pas à tout prix, on a des règles, il faut qu'on les respecte, et on est très attaché à ces règles. Encore une fois, j'acquiesce à ce qu'a dit Madame Colli, les agriculteurs de la FNSEA ne veulent pas revenir sur les normes qui sont les nôtres. Par contre, on a une certaine vision productive, nourricière de l'agriculture, qui est un peu éloignée de celle des autres syndicats. Mais c'est bien, c'est la pluralité, ça permet le débat.
Et pour parler du projet politique que soulève Marine Colli, Emmanuel Macron rétorque qu'il a toujours été cohérent, il a toujours conditionné son feu vert à la révision du texte pour que des clauses de sauvegarde promises soient effectivement intégrées. Est-ce que vous seriez d'accord avec un traité Mercosur, avec un accord qui respecterait les clauses de sauvegarde, les clauses miroirs, tout ça, ça pourrait rendre ce traité acceptable, ou est-ce que vous le rejetez quoi qu'il arrive?
Alors, il faut faire attention à pas faire la confusion entre clause miroir et clause de sauvegarde. Les clauses de sauvegarde, c'est une intervention...
Ce sont des garanties.
Voilà, c'est juste une intervention sur des prix et des volumes pour des questions conjoncturelles sur un marché. Les clauses miroirs, comme Madame Colli l'a très bien dit, c'est une réciprocité des normes strictes. C'est-à-dire qu'on demande à ce qui rentre sur notre territoire soit produit avec les normes en vigueur sur notre territoire. C'est très bien résumé par la phrase qu'on utilise, le slogan qui est le nôtre depuis des années, « N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas ».
Marine Colli, sur les quotas d'importation de viande qui sont prévus, ça représente l'équivalent d'1,5% de production de bœuf européen quand c'est le bœuf, et 1,3% de production européenne quand il s'agit de la volaille. Au-delà des viandes du Mercosur, au-delà de ces quotas, les viandes en provenance du Mercosur seraient taxées à 40%. Est-ce de nature à offrir des garanties aux agriculteurs français?
Je vais être obligé de vous contredire, désolé.
Ah ben, allez-y.
Des viandes du Mercosur,
la spécialiste, c'est vous.
Des viandes du Mercosur, on en importe déjà beaucoup, et une partie à droit de douane réduite, on importe de l'Union européenne.
Alors d'où sort ces 1,3% dont parle aujourd'hui
quand
la ministre de l'Agriculture?
Quand on regarde le quota, par exemple, de 99 000 tonnes annuelles à 7,5% de droits de douane qui va être concédé dans le cadre de cet accord, on fait comme si on importait des carcasses entières de viande bovine. C'est vraiment pas le cas. On importe certains morceaux. Quand ce qui concerne la volaille, c'est plutôt des filets. En ce qui concerne la viande bovine, c'est plutôt les morceaux qu'on fait griller, ce qu'on appelle l'aloyau. Donc déjà, il faut arriver à remettre les ordres de grandeur à leur place. Le marché de ces morceaux-là, il est évalué à environ 400 000 tonnes en ce qui concerne la viande bovine sur le marché européen. Et surtout, là, on fait mine de découvrir ces importations de viande bovine. On fait comme si on n'en importait pas aujourd'hui. C'est complètement faux. L'Union européenne importe déjà 300 000 tonnes de viande bovine du Mercosur. un montant équivalent ce qui concerne la viande de volaille. Donc ces viandes, elles arrivent déjà.
Qu'est-ce qui va changer avec le traité alors?
On aura un quota additionnel. Donc si on prend l'exemple de la volaille, on en importe aujourd'hui 300 000 en provenant du Mercosur. L'accord prévoit un quota de 180 000 tonnes à droite de douane nulle. Donc on est sur une augmentation très importante et on sait que les capacités de production du Mercosur sont telles que ce quota il va être rempli immédiatement. En ce qui concerne la viande bovine, c'est vrai, le quota est un petit peu plus faible. Mais là encore, le droit de douane est tellement attractif que dès demain, dès que le quota sera ouvert, on sait que les producteurs seront au rendez-vous. Et encore une fois, il faut comprendre que cet accord, il arrive à un moment pour l'agriculture française. C'est pour ça aussi que sa charge symbolique est si forte. Il arrive au moment où on perd beaucoup de production. Il faut réaliser qu'en France, au pays de la Charolaise, de l'Aubrac, on importe déjà près de 30% de la viande bovine qu'on consomme, justement parce qu'on perd des éleveurs chaque année, que les niveaux de consommation se tiennent. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les éleveurs, ça, qu'on mange autant de viande. Et donc, c'est le moment vraiment où on a besoin de définir ce qu'on veut. Et là, le signal qui va être envoyé, c'est que ce qu'on veut, c'est rendre la viande du Mercosur toujours plus présente demain dans nos restaurants et nos rayons.
D'où l'inquiétude des agriculteurs en ce moment en France. C'est le thème du téléphone sonne, on en parle jusqu'à 20h.
France Inter, le téléphone sonne.
Luc nous appelle du Pays de Loire, je crois. Bonsoir, bonsoir Luc, pardon.
Oui, bonsoir. Merci de France Inter, toutes vos émissions, mais il y a souvent une incohérence totale entre la COP, tout ça, etc. On doit réduire de 4 à 5 fois nos émissions de CO2 si on veut survivre sur la planète, à moins de 2 degrés, sinon on va arrêter l'agriculture. Je ne sais pas si vous savez, à 3 degrés, on arrête l'agriculture sur la planète. Bon, et donc là, le Mercosur, je ne comprends pas qu'on continue à importer, exporter, même, d'ailleurs, ça nous concerne aussi, pour le reste du monde. Alors, dans le cas d'urgence, pour les pays, etc., je comprends, mais ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose au niveau européen, parce que ça vient par bateau, ça fait des milliers de kilomètres, et l'agriculture en France, sauf erreur de ma part, c'est autour de 25 à 30% d'émissions de CO2, tout compris. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que tout ce secteur devra aussi décarboner.
Merci de cette intervention, Luc. C'est tout le paradoxe du commerce mondialisé et ses conséquences écologiques. D'ailleurs, Marine Colli, pour répondre à la demande croissante de viande bovine des pays du Sud américain, est-ce qu'il faudra irrémédiablement détruire là-bas encore des forêts riches en biodiversité, notamment en Amazonie?
En tout cas, c'est ce que nous apprend le rapport d'experts qui avait été commandé par le gouvernement dès 2019. La seule ouverture du quota de viande bovine pourrait provoquer une accélération du rythme de la déforestation en Amazonie de 5%. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que malgré les lois anti-déforestation qui ont été vraiment remises à jour avec le retour du président Lula, on a un champion mondial de la viande bovine au Brésil, l'entreprise JBS, c'est une multinationale qui pèse 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui pratique de manière impunie ce qu'on appelle de la déforestation illégale. Il y a du blanchiment de bétail, en fait. Il y a des élevages qui sont sur des zones déforestées, qui ne devraient pas pouvoir vendre leur viande. Et bien, JBS se débrouille pour transférer les animaux vers des élevages qui sont sur des zones autorisées. Et donc, ces pratiques continuent. Et on a l'impression que le business prend vraiment à chaque fois le dessus sur tous ces enjeux environnementaux.
Et contre le business, il y a la mobilisation des syndicats agricoles. Beaucoup de questions ce soir, Romain Blanchard. L'européenne Ursula von der Leyen et le brésilien Lula pourraient signer l'accord lors du prochain sommet du Mercosur, vous avez dit le 19 ou 20 décembre à Rio de Janeiro. Qu'allez-vous faire d'ici là à la FNSEA, Romain Blanchard?
Nous sommes déjà mobilisés. Vous avez suivi la mobilisation à Toulouse mercredi. Il y en a eu d'autres plus au nord de la Loire. On continue à se mobiliser. Toute la semaine prochaine, il y a certains départements qui vont partir en action pour montrer leur détermination et leur mécontentement.
Ça va monter en puissance. Mobilisation des FDSEA demain, je crois, à Béziers, je crois, pour vous. Et il y aura d'autres départements qui sont prêts à se mobiliser avant la fin de l'année.
Oui, bien sûr, de partout. Par exemple, dans ma région, au sud-est, il y a les Hautes-Alpes qui vont se mobiliser dès mercredi prochain. Parce que malheureusement, le Mercosur n'est pas le seul problème de l'agriculture, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est vrai que ces déclarations malheureuses du président ont un peu mis le feu aux poudres. Mais le monde agricole se porte pas bien aujourd'hui. Vous parlez de la manifestation de demain, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Mercosur, mais c'est le monde viticole qui traverse une crise sans précédent. Et donc, on vient crier notre colère et notre détresse. Et
à propos de vente de vin, ce traité Mercosur permettrait aussi d'exporter plus de vin français. Est-ce que ça compte dans la balance? Et là, je m'adresse aux viticulteurs.
Non, pas vraiment, dans le sens où l'agriculture française, c'est un tout. Les filières sont interdépendantes, sont reliées entre elles. Et en fait, dire qu'on va signer un accord qui va favoriser une filière plutôt qu'une autre, c'est juste déterminer quel sera le dernier à mourir. Et c'est pas ce qu'on souhaite aujourd'hui.
Paul est en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir Paul, vous êtes à l'antenne.
Merci, bonsoir à tous. J'ai une question complètement idiote, mais je me dis, est-ce que vient de faire la Chine avec Chine sur notre sol, le Mercosur va-t-il pas faire la même chose ? C'est-à-dire que bientôt, on va avoir des magasins spécialement Mercosur, quoi. Et personne ne va ouvrir.
Je n'ai pas très bien saisi le parallèle, mais je crois, et je vais soumettre comme je peux la question à Marine Colline, qui est spécialiste des politiques agricoles et des politiques de libre-échange. Les Français l'ont dit, en tout cas une partie des Français l'ont dit, ils ne veulent pas des produits en provenance de Chine et du fabricant ou Shein. Et cependant, les produits arrivent. Est-ce que ce côté irrémédiable peut arriver également avec l'agriculture en France et des boutiques qui en provenance, dont les produits viendraient trop nombreux de ces pays d'Amérique du Sud. C'est ce qui se dessine.
C'est la direction qu'on semble prendre, effectivement. On a une production qui ne cesse de diminuer. On maintient en plus des exportations, c'est aussi ça qu'il faut dire quand même. C'est aussi l'occasion, cet accord avec le Mercosur, encore une fois, de questionner la cohérence de notre système agricole et alimentaire global. On parle beaucoup de souveraineté, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que déjà on importe beaucoup pour produire français. Par exemple, on veut produire beaucoup plus de volailles demain. On sait que si on veut produire beaucoup plus de volailles et de la volaille d'entrée de gamme, c'est ce que semble dire le gouvernement, on le fait avec du soja importé brésilien. Et par ailleurs, on continue d'exporter beaucoup. On exporte par exemple de la poudre de lait, alors même qu'on se met à importer des produits laitiers. Donc ça, c'est une chose. En tout cas, effectivement, si on continue sur cette dynamique-là et qu'on ne change pas de projet politique, je ne vois pas ce qui pourra empêcher demain cette agriculture du Mercosur d'être omniprésente sur le marché français.
Marine Colline, vous l'abordez aussi dans votre dernier livre, intitulé « Notre assiette mondialisée ». Vous y dénoncez les multinationales de l'agroalimentaire accusées de ne jamais se préoccuper des enjeux environnementaux, sociaux ou de santé publique. Il n'y a pas de contre-exemple, pas de business à grande échelle, pas de business vertueux dans l'agriculture. Ça n'existe pas à vos yeux ?
Il faut comprendre que le principe même du libre-échange, c'est d'offrir des opportunités sur le marché mondial aux systèmes agricoles qui produisent le plus vite, au plus bas coût. Donc, et en ignorant systématiquement la question des standards de production et des standards de durabilité. Donc dès lors qu'on ne fait pas rentrer dans le logiciel du libre-échange cette question des standards de production, et c'est ça la question des mesures miroirs, non, on n'y arrivera pas, et l'agro-industrie brésilienne sera encore et toujours la grande gagnante.
Dominique est en ligne. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir. Oui, j'appelle de la région nantaise. Je suis fils d'agriculteur. Mon neveu va reprendre la suite. Oui, j'arrive pas à comprendre que l'Europe n'impose pas les mêmes normes qu'elle impose à ses agriculteurs. Donc les normes, les mesures miroirs. Donc ça devrait être compréhensif. Je veux dire, la concurrence est déloyale dès lors qu'il n'y a pas les mêmes normes. Elle devrait imposer les mêmes normes qu'elle impose à ses propres agriculteurs. Sinon, ça va plus.
Merci de cette question évidente. Je la transmets à Marine Colline. C'est tellement évident d'avoir une réciprocité. Qui bloque en Europe pour refuser, qui bloque à Bruxelles pour refuser cet aspect miroir des mesures en disant on accepte ce que l'on fabrique nous-mêmes et vice-versa.
Tous les gens qui voient encore leur avenir dans le commerce mondial, puisque faire ça, c'est...
Mais il y a des pays qui s'y opposent très frontalement.
Alors, déjà, il y a la Commission européenne qui n'a vraiment pas envie que ce sujet avance. Il y a des pays qui ne sont pas encore très familiers avec ce type de mécanisme. L'Allemagne, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chantier-là, il s'oppose systématiquement au chantier du libre-échange. Là, si on reprend l'accord avec le Mercosur, si vous voulez vendre des choses au Mercosur, vous n'allez pas pouvoir expliquer en même temps à leurs exportateurs que vous allez poser des conditions d'accès au marché qui vont les empêcher de profiter à plein d'opportunités commerciales sur notre marché. Et peut-être que pour compléter la question, c'est encore un petit peu plus grave que ça, ça va encore un petit peu plus loin que ça, parce que dans la dernière version de l'accord telle qu'elle a été conclue en décembre 2024, le Mercosur a réussi à faire intégrer un nouveau mécanisme qu'on appelle le mécanisme de rééquilibrage. Et ce mécanisme, il dit que si l'Union européenne avait cette drôle d'idée que celle d'adopter des mesures miroirs pour poser des conditions d'accès à notre marché en cohérence avec nos préférences collectives, alors les pays du Mercosur pourraient exiger des compensations, notamment des compensations financières, puisque, encore
donc
une fois...
Donc les mesures miroirs pourraient coûter cher à la France.
En tout cas, ça ouvre la possibilité pour le Mercosur, effectivement, d'exiger des compensations. Donc on est là, on a encore fait un pas en arrière par rapport à il y a quelques années.
Romain Blanchard à la FNSEA contre la concurrence déloyale qu'évoque notre auditeur, concurrence déloyale des importations sud-américaines qui ne respecteraient pas nos normes. Bruxelles promet pourtant des garanties et elle promet notamment aussi de renforcer les contrôles aux frontières. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer à la FNSEA ?
Non, pas du tout, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'a malheureusement plus les moyens d'effectuer des contrôles systématiques. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Mme Colli qui connaît mieux le dossier que moi, ce qu'on demande pour la viande bovine, par exemple, ce sont des attestations sur l'honneur des vétérinaires. Il y a une mission européenne qui est partie il y a un peu plus d'un an maintenant faire une enquête au Brésil qui a retrouvé des traces. Alors, je veux pas dire de bêtises, est-ce que c'est de l'hormone ou est-ce que c'est un antibiotique de stradiol dans des viandes, alors qu'il y avait des déclarations qui disaient que c'était pas utilisé.
Donc des contrôles pas fiables à vos yeux.
Alors, les contrôles sur place, en tout cas, ce qui est demandé de la part des Brésiliens, ce n'est pas fiable, et je crois que tout le monde le comprend. Est-ce qu'aujourd'hui, on est largement contrôlé en France et en Europe dans l'agriculture? Est-ce que les concitoyens trouveraient normal qu'on se contente d'une attestation sur l'honneur de tous les exploitants qui, comme quoi, on respecte la législation et qu'il n'y ait plus aucun contrôle? Je ne crois pas.
Mmh. Marine Colline.
Voilà. Par contre, je reviens juste, si vous permettez, sur la question de votre auditeur qui était intéressante parce qu'on aborde beaucoup cet accord sous le prisme de l'agriculture. Il faut bien comprendre que c'est un échange. En fait, on est en train de vendre de l'industrie, en l'occurrence des voitures et des avions à l'Amérique du Sud, et contre ça, on est en train de brader notre agriculture.
Et on l'appelle
c'est pour
d'ailleurs
ça qu'il y a un intérêt européen.
On l'appelle d'ailleurs le traité viande contre voiture, hein, pour schématiser et symboliser cet accord. Catherine est en ligne. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi, je reconnais franchement, là, je suis dans ma cuisine, je vous écoute, j'ai l'impression que j'entends des joueurs d'un grand monopoly agricole. J'entends qu'on fait venir des morceaux de bidoche, j'entends des trucs ahurissants. C'est vrai que moi, je viens d'une famille d'agriculteurs du Massif Central, mais c'était pas des agriculteurs intensifs, hein, c'était des paysans qui étaient heureux de l'être et qui en vivaient. Et là, la seule chose qui m'a bouleversée une fois de plus, c'est de moins en moins d'éleveurs en France. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs styles d'agriculteurs, il y a plusieurs types de revenus aussi, plusieurs types d'exploitation. Et là, je me dis que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui déconne, quoi?
Eh bien écoutez, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui déconne dans l'agriculture et dans... En tout cas, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Marine Colli, c'est-à-dire que cette viande en provenance qui viendrait en provenance et qui arrive déjà en provenance des pays d'Amérique du Sud, elle arrive dans quel état? C'est parfois déjà conditionné. Souvent conditionné.
C'est même souvent, c'est ce que disait tout à l'heure Robin Blanchard à très juste titre, souvent le consommateur en fait n'a pas le choix que de consommer cette viande, il ne fait pas le choix de l'acheter dans les rayons. On trouve très peu de viande du Brésil en barquette, des morceaux entiers de la viande fraîche dans les supermarchés. Elle arrive un petit peu en restauration et ça, il y a un petit manque de transparence de la part des acteurs de la restauration, mais surtout, en fait, les grands gagnants de cette affaire, ce sont les industriels qui peuvent acheter à bas coût cette viande qu'ils incorporent dans des produits élaborés, les nuggets dont raffolent nos enfants, les cordons bleus. Et là où on est doublement perdant, nous les consommateurs, c'est qu'en plus on n'a pas l'accès à l'information sur l'origine de la viande qui est incorporée dans ces produits élaborés. Ou plutôt, je devrais dire, on ne l'a plus, parce qu'on l'a eu. Entre 2016 et 2021, cette règle était imposée et malheureusement, une autre multinationale, Lactalis pour le coup, avait dénoncé cette démarche de transparence vers le consommateur soulignant le fait que c'était une entrave à la fameuse libre circulation des marchandises, à la libre concurrence au sein du marché de l'Union européenne, et Lactalis a eu gain de cause. Donc le Conseil d'État a annulé le décret qui nous permettait, à nous consommateurs, de choisir en connaissance de cause.
Romain Blanchard, voilà de longs mois, de longues années que les agriculteurs se mobilisent pour ne pas disparaître. Pas mal de questions sur votre dernière fronde agricole l'an dernier. Promesse vous avait été faite aux agriculteurs d'avoir moins de normes, moins de paperasse, moins de tracasseries administratives pour passer plus de temps sur l'exploitation et moins derrière le bureau. Est-ce que ces promesses ont été tenues ? ou en voie de l'être ?
Malheureusement non, en voie de l'être c'est pas entre mes mains, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Non, malheureusement c'est la charge administrative ne fait que s'accroître. Alors c'est pas tellement les normes, hein, c'est le principe de traçabilité qui certes il est nécessaire, mais aujourd'hui c'est poussé à l'extrême. On a une administration en face de nous qui on a l'impression qu'on est nourri à base de papier. Si vous voyez une exploitation comme la mienne qui est plutôt de taille modérée, hein, moi je suis en dessous de la moyenne régionale dans une région où les exploitations sont plutôt petites, la quantité de papier et de documents que je dois fournir, c'est ubuesque, et comme vous l'avez bien dit, c'est du temps que je passe pas sur mon exploitation, donc du temps que je passe pas à produire. Donc ça augmente le coût, puis j'ai pas choisi ce métier parce que j'ai mettre derrière un bureau en plus.
Romain Blanchard, vous vous revendiquiez il y a 4 ans, peut-être vous le faites encore, d'une agroécologie pragmatique. C'est quoi ce concept ?
C'est le principe de réalité. On va prendre ce qui était très simple dans le Green Deal, où on nous oblige, grosso modo, on avait un objectif de passer en bio, parce que c'est le grand truc. Alors moi, je suis en bio en plus, donc je suis vraiment le mauvais exemple de la FNSA. Puisque si on tombe dans les archétypes qui sont
celui par certains de vos auditeurs, les stéréotypes, on est bien là, hein, quand même.
Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible. On est nombreux en plus comme ça. Aujourd'hui, on nous demande de 20 à 30% de passer 20 à 30% des surfaces en bio. Il se trouve que le bio, ça fait erreur de ma part, c'est entre 5 et 6% du marché aujourd'hui en France. Vous comprenez bien qu'il y a un truc qui peut pas marcher. Donc c'est là où on parle de pragmatisme. En fait, on produit pour fournir un marché, pour nourrir des gens qui sont capables d'acheter notre production.
Et vous travaillez aussi en coopérative, hein, il faut en parler de mots de cette coopérative. Ça vous apporte quels avantages au quotidien ?
Alors moi je suis un coopérateur dans l'âme, effectivement toutes mes productions en plus sont commercialisées en coopérative, ça permet de mutualiser les outils, par exemple on va parler de la viticulture. Moi aujourd'hui j'ai pas besoin de financer une cave, j'ai pas besoin de me pencher au quotidien sur la commercialisation puisqu'on s'est regroupé à plusieurs agriculteurs, d'abord pour financer l'outil, aussi pour faire rentrer de la compétence et du savoir-faire avec un maître de chez, des cavistes et puis un directeur commercial qui va vendre notre production après. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 17 casquettes dans lesquelles je suis obligé d'être performant pour équilibrer, moi je me concentre sur ma production, qui est le métier qui me plaît. Et il y en a d'autres qui peuvent faire une autre facette de notre profession qui est nécessaire pour arriver à gagner notre vie. Et donc, c'est du travail d'équipe.
Travail d'équipe. Marine Colli, il nous reste quelques secondes, mais je voudrais dire un mot de votre association, les Voix Agricoles, parce que vous êtes en soutien à la profession. Quelle sorte de soutien vous apportez à ces agriculteurs qui viennent vous voir ?
Alors, les Voix Agricoles, c'est une jeune association qui s'est créée à partir d'un constat. Ce qu'on a appris d'une consultation menée par le Shift Project en 2024, c'est que 85% des agriculteurs ne considèrent que leur point de vue n'est pas représenté dans le débat public tel qu'il se tient aujourd'hui sur l'agriculture, parce que ce débat, il est très détérioré, très polarisé. Donc nous, on vient aider des agriculteurs à prendre la parole dans le débat public pour y porter non pas une parole idéologique, une parole d'organisation, mais tout simplement un témoignage très connecté à la réalité de terrain. C'est une manière pour nous de dépolariser ce débat et donc d'aller vers un nouveau projet politique.
Merci d'être venu le dire ce soir sur l'antenne de France Inter. Merci à vous deux. Le téléphone sonne, c'est terminé. À suivre l'heure philo de Patricia Martin avec une émission spéciale Masterclass ce soir autour des sujets de philo qui pourraient bien tomber au bac à propos ce soir de la liberté sur France Inter. Et Patricia sera avec une classe de terminale. Leur professeur de philo et la philosophe Céline Spector, invitée de l'émission. Leur philo, ce sera après le flash de 20h.